Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe pour commenter une actualité européenne foisonnante en bonnes et moins bonnes nouvelles. Nous recevons aujourd'hui notre Français de Bruxelles, le commissaire européen aux affaires économiques et financières Pierre Moscovici. Bienvenue, bonjour.
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 Vous venez de publier un livre sur votre expérience du pouvoir. Dans ce clair-obscur surgissent les monstres, un titre emprunté à Gramsci, le penseur de la gauche italienne. Faut-il rappeler que vous avez été ministre des Finances de François Hollande, eurodéputé, ministre des Affaires européennes, membre aujourd'hui de la commission dite de la dernière chance, selon l'expression attribuée à Jean-Claude Juncker. Alors, cette Union européenne, elle fait face à une tornade de défiance qui se déchaîne à l'Est, à l'Ouest, au Sud, dans quasiment tous les pays de l'Union.
Et si vous le voulez bien, d'ailleurs, on commence sur cette question des populismes et de leur montée dans l'Union européenne. En Hongrie, à l'issue des élections de dimanche, troisième mandat pour le très droitier et anti-migrant Viktor Orban. Son pays est-il encore, pour vous, une démocratie ?
Dès lors qu'il y a des élections, que ces élections se déroulent dans des conditions qui sont régulières, on ne va pas commenter leurs résultats, en tout cas pas en termes de système. Il n'y a pas d'atteinte, en l'occurrence, à la démocratie ou à l'état de droit, en tout cas sur ce point. Donc ce sont des élections qui sont des élections dont il faut respecter le verdict, avec tout de même l'observation que, même si M. Orban est un leader fort, son pouvoir s'érode, que les oppositions désormais se font entendre, la question de savoir si un jour elles pourront s'unir. Mais on sent quand même que voilà, il y a une démocratie qui est vivante, il y a une parole populiste qui est audible, et c'est le paradoxe d'ailleurs de la situation européenne aujourd'hui. Vous parliez de commission la dernière chance, nous l'avons saisie cette dernière chance. L'Europe va mieux, beaucoup mieux. En termes de croissance économique, on est maintenant à 2,5% en 2017, plus de 2% dans les deux années qui viennent. On crée des millions d'emplois, des centaines de milliers d'emplois en France. Le paradoxe, c'est que si l'Europe va mieux, du coup, un certain nombre de frustrations, un certain nombre d'exigences, un certain nombre de demandes, maintenant, pointent et s'expriment davantage. Et c'est vrai qu'il y a aussi la question migratoire, à la fois dans sa réalité, mais aussi dans son fantasme. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette période-là, il faut être très offensif.
Si vous voulez bien, on va s'arrêter sur cette question migratoire, parce que, qu'elle soit fantasmée ou réelle,
elle n'est pas que fantasmée.
Voilà.
Ce que je veux dire, c'est qu'elle est décalée.
Tout à fait.
En 2015, on n'a pas eu cette poussée d'aujourd'hui. Il est vrai qu'on n'a pas traité le problème comme il fallait. Si vous prenez la situation italienne, c'est vrai que beaucoup d'Italiens ont eu le sentiment qu'ils ont été laissés seuls en première ligne face à une crise qui est tombée sur eux.
Et aujourd'hui, les partis populistes, la Ligue, le mouvement 5 étoiles, eh bien, sont sortis victorieux des élections. On a vu aussi en Autriche que le parti d'extrême droite FPÖ a joué cette corde. Viktor Orban, évidemment, alors qu'il y a très peu de migrants dans ce pays. Alors, dans ces conditions, est-ce que l'Europe est à même de proposer une véritable politique migratoire, puisqu'on voit partout en Europe que c'est un sujet qui divise ?
Il le faut parce qu'il faut être à la fois à la hauteur de notre tradition historique. L'Europe, c'est une terre d'accueil pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont en danger de mort. Et une Europe qui ne serait pas humaniste est une Europe qui manquerait à sa mission essentielle. Je dirais que non seulement elle y manquerait, mais elle y tournerait le dos. Parce que nous avons été, l'Europe, construite pour ça, pour réconcilier les peuples, pour la paix et pour créer cette unité. Et dans le même temps, il y a une autre exigence qui n'est pas contradictoire, mais qui est complémentaire, qui est celle de protéger notre frontière commune. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le slogan nationaliste de retrouver une identité. Vous parlez de M. Orban. M. Orban est un homme qui considère qu'un Européen, c'est un chrétien blanc. Et ça n'est pas quelque chose qui est exact. L'Europe a sans doute une empreinte chrétienne, comment le nier, mais elle n'est pas uniquement chrétienne. Et les Européens ne sont pas non plus des gens qui doivent appartenir à une seule culture. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut considérer que certaines religions sont contradictoires avec la réalité européenne. Et on doit vraiment construire cette politique commune. Pourquoi ? Parce que sinon, ce sont les pays de la ligne de front, c'est la Grèce, c'est l'Italie qui se sentent délaissés. Il faut qu'il y ait un partage du fardeau et une protection efficace. C'est plus urgent que jamais. fait.
Alors justement, dans cette ambiance de plus en plus eurosceptique tout de même, la promotion express d'un Allemand, Martin Selmayr, bras droit de Jean-Claude Juncker, au poste assez central de secrétaire général de la Commission, a été très critiquée, notamment par des eurodéputés. Pourquoi une telle maladresse à un an des élections européennes ?
Écoutez, moi pour ma part, je pense qu'il faut laisser maintenant se dérouler le processus devant le Parlement européen. Et que, puisque le Parlement européen s'en est saisi, vous savez qu'il y a une commission qui s'appelle COCOBU, la commission de contrôle budgétaire, il y a les médiatrices qui posent des questions, la Commission européenne, son président et Martin Selmayr y répondent, ils doivent y répondre, et c'est ainsi que doit se dérouler ce processus. Je ne veux pas là-dessus donner d'autres commentaires que ceux que j'ai déjà été amené à faire. Il y a là-dessus incontestablement une surprise. Je suis commissaire européen, je suis entré dans la salle, je ne savais pas que M. Selmayr allait devenir secrétaire général. Il y a des interrogations sur la procédure et elles doivent trouver une réponse. Et il faut vraiment qu'il y ait une clarification dès lors qu'il y a question.
Vous approuvez
cette nomination ? Et il y a le fait que M. Selmayr est un homme dont les qualités intellectuelles et professionnelles sont très...
Alors, dans l'actualité de l'Europe cette semaine,
je n'ai
bien...
pas approuvé ou désapprouvé.
Vous n'avez pas, mais vous avez quand même une petite idée sur la question. Vous pourriez nous la faire partager.
Je pense que c'est au Parlement européen maintenant de jouer son rôle et je crois que les questions qu'il a posées doivent trouver réponse. Et c'est en fonction du caractère convaincant ou non de ses réponses que cette affaire connaîtra un débouché. Je souhaite en toute hypothèse que ça ne déstabilise pas les institutions européennes. Pour le coup, nous ne pouvons pas nous le permettre dans une période où effectivement l'image de l'Europe, de manière injuste, me semble-t-il, est aussi fragile. C'est la raison aussi, d'ailleurs, pour laquelle il faut être à la fois extrêmement responsable, mais aussi extrêmement clair. Et les deux devoirs doivent être poursuivis de front.
Alors, autre patate chaude pour l'Europe, eh bien, c'est la crise catalane qui revient en boomerang. Le leader indépendantiste Carles Puigdemont a été arrêté en Allemagne à la demande de l'Espagne. Et puis, finalement, il est libéré. Aujourd'hui, il appelle Madrid au dialogue. Et ça devient, de fait, un sujet européen avec son errance à travers l'Europe, la Belgique, puis l'Allemagne. Qu'est-ce que l'Europe à répondre? C'est pas seulement un problème espagnol maintenant.
C'est quand même avant tout un problème espagnol, désolé de le dire, mais il y a en Espagne un ordre constitutionnel qui doit être respecté. Il y a un fait régional, la question de savoir comment on le traite est une question qui doit être traitée entre les Espagnols, qui doit être traitée aussi avec les élus régionaux. Le cas de M. Puigdemont est un cas différent. Il a choisi une forme d'exil. Et ensuite, c'est devant les cours que ça se produit, puisqu'il a été arrêté, puisque, je crois, le procureur demandait cette extradition.
Ce n'est plus qu'une affaire judiciaire pour vous. Ce n'est pas une affaire politique.
Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la question de son errance est une question qui, elle, devient une question policière et judiciaire. Certains pays sont favorables à l'extradition, d'autres ne le sont pas. La police arrête, les procureurs prennent une position, les juges en prennent une autre. Donc ça, c'est une question en soi. Mais derrière ça, il y a la question politique catalane qui doit être réglée dans le cadre espagnol, en tout cas. Et moi, j'ai toujours eu la même conception, c'est que ça doit être réglé dans ce cadre, mais dans le dialogue.
Alors revenons en France, si vous le voulez bien, où le président Emmanuel Macron se heurte à une première mobilisation fronde sociale avec la grève des cheminots, très mobilisés en effet pour conserver leur statut et défendre le caractère public de leur entreprise. Avec ce reportage signé Jonathan Walsh, nous allons au Royaume-Uni. On va voir comment les Britanniques apprécient, eux, la privatisation de leur rail.
Habiter au bord de la mer et travailler à Londres, à une heure de train à peine. De nombreux Anglais ont cédé à la tentation. Avant de s'en mordre les doigts, la ligne qui relie Brighton et Hove à la capitale est devenue un cauchemar pour les voyageurs.
Voici mon pass annuel, il coûte plus de 4500 euros. Ça représente 8% de mon salaire. Il me permet d'aller de Hove à Londres, mais pas de prendre le métro dans la capitale. Quand je dis à mes amis et à ma famille combien je paye, ils ne me croient pas. C'est de l'extorsion pure et simple.
Un prix exorbitant et rarement un siège de libre. Dans les années 90, le gouvernement avait privatisé le rail en promettant un service plus efficace et moins coûteux. Aujourd'hui, les trains britanniques sont les deuxièmes plus chers d'Europe après la Suisse. Et 60% de la population souhaite une renationalisation.
Avant la privatisation, dans les années 70 et 80, je me rappelle qu'à Manchester, où j'ai grandi, les trains étaient toujours à l'heure et les billets étaient très bon marché.
Les trains rapportent tellement d'argent, de l'argent qui pourrait servir à améliorer le service.
Pour cet ancien ministre des Transports, le système actuel est trop libéral et a favorisé les pires excès. Il estime que la France ne doit pas reproduire les mêmes erreurs.
Mon conseil au président Macron concernant le rail français est le suivant. Dites oui à la compétition, mais n'affaiblissez pas la SNCF. Il vous faut des opérateurs privés forts, des opérateurs publics forts et une compétition saine entre les deux.
Conformément aux directives européennes, Paris s'apprête à ouvrir le transport ferroviaire à la concurrence. Mais le gouvernement a promis de ne pas privatiser la SNCF.
Alors c'est en partie pour ouvrir en effet le rail français à la concurrence, comme lui demande Bruxelles, hein, qu'Emmanuel Macron mène cette réforme. Donc, vous la soutenez ?
Moi, je suis assez sur la position de l'ancien ministre britannique. Parce que, d'abord, première chose, arrêtons de faire, comme toujours en France, de dire, voilà, on fait une réforme parce qu'on est obligé, parce que c'est Bruxelles. Il y a un paquet ferroviaire, le quatrième, qui a été adopté par le Parlement et par le Conseil, qui laisse en vérité une très grande latitude de manœuvre aux États membres sur le choix qu'ils peuvent faire. Et donc, ça n'est pas parce que Bruxelles l'imposerait, ça n'est pas pour complaire Bruxelles qu'on fait cette réforme. On fait cette réforme, le président Macron l'a dit d'ailleurs, parce qu'il estime qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut des changements. Laissons Bruxelles hors de ça. Ensuite, deuxième réflexion, il y a plusieurs façons de faire l'ouverture à la concurrence. Il y a une façon qui est en effet de privatiser, qui est de démolir le service public, et ça donne des résultats qui sont approximatifs. Il y en a une autre, qui est la façon allemande, il y a ce qu'a fait la Deutsche Bahn par exemple, qui reste un service public extrêmement puissant et qui offre des services de grande qualité à ses usagers. Et donc moi, à titre personnel, et aussi comme responsable politique, parce que je le suis, avec ma propre sensibilité, J'ai tendance à dire que il faut pas garder le monopole à la papa, parce que c'est plus d'actualité, parce que ça ne permet pas de résoudre un certain nombre de situations, mais que pour autant, il ne faut pas aller vers la concurrence sauvage qui privatise et dérégule. Il faut garder un service public fort, il faut réformer l'entreprise, mais le faire en lien avec ses agents, et tout ça doit se faire dans le dialogue.
Oui, il y a un sujet quand même qui vous interpelle, vous, en tant que commissaire européen aux finances, c'est la dette de la SNCF, 50 milliards d'euros. C'est un sujet clé de cette réforme. Alors, si l'État l'éponge, ça va être la sortie de route pour la trajectoire financière française. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut désobéir aux règles européennes ? Quelle est la solution pour cette dette ?
Il est hors de question de désobéir aux règles européennes. Je le dis non.
C'est vous. Le commissaire.
C'est l'ancien locataire
de Bercy qui parle.
C'est surtout le commissaire en charge de la surveillance budgétaire qui le dit. C'est aussi l'ancien locataire de Bercy. C'est quelqu'un qui sait que des règles sont faites pour être exécutées, que si on commence à accepter des entorses massives, alors à ce moment-là, il n'y a plus de règles du tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cadre. Et la dette est toujours l'ennemi du service public. Quand on est endetté, on ne peut pas investir et on a besoin de le faire. Ensuite, je n'ai pas noté qu'à l'heure actuelle, le gouvernement français ait pris une position précise sur ce sujet-là. Quand il l'aura fait, nous en parlerons et nous chercherons les solutions les plus intelligentes et les plus adéquates. Car tout ça ne se fait pas forcément non plus en un jour.
Puisqu'on est sur le chapitre des taxations, votre taxe provisoire de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du numérique qui est censé entrer en vigueur à titre provisoire pour justement rattraper le fait qu'ils payent très très peu d'impôts sur le territoire européen, ça n'a pas vraiment convaincu les États au dernier conseil, en tout cas pas l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, quelques États baltes qui n'en veulent pas vraiment. Comment les faire changer d'avis et taxer finalement ces GAFA domiciliés chez nous ?
Deux choses. La première, c'est que, vous l'avez dit, c'est une taxe temporaire. Et je veux insister sur la vraie réforme pour moi, qui sera le régime définitif. On en parle peu, mais c'est ça la vraie solution. La vraie solution, c'est que nous avons un trou dans la raquette juridique, qui est qu'aujourd'hui, nos entreprises sont taxées sur la base d'une présence physique. Moi, j'étais pendant 20 ans député à Montbéliard. Vous avez une usine qui produit des bagnoles. Vous avez 10 000 salariés. Vous produisez tant de véhicules. Vous taxez. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Pour les GAFA, c'est pas la même chose parce qu'on ne connaît pas la présence digitale. Il faut arriver à définir juridiquement ce qu'est la présence digitale. C'est le nombre de clics, nombre de contrats, nombre d'usagers. Je pense que la valeur usagée est très importante là. Et une fois qu'on a cette présence digitale, qui doit être une définition internationale, si possible européenne en tout cas, là, on peut taxer de manière efficace et durable le numérique. Et on peut le faire soit à l'échelle européenne, c'est ce qu'on appelle l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés, soit dans chacun de nos États membres. En attendant qu'on y soit, parce qu'on sait que ça prend un peu de temps. Nous avons en effet proposé une taxe transitoire, mais j'insiste sur le transitoire. Elle ne doit pas être durable, ça ne doit pas être un alien qui commence tout petit puis qui finit par péter la cabine. Il faut que ce soit une taxe proportionnée, raisonnable, qui en même temps est un rendement correct, au moins 5 milliards d'euros, d'où les 3%. Comment convaincre ? Je pense qu'il faut d'abord rassurer. Cette taxe n'entraînera aucune forme de délocalisation, puisque ce qu'on va taxer, en réalité, c'est la valeur d'usage. Ce sont des moteurs de recherche, ce sont des réseaux sociaux, ce sont des plateformes, et par définition, il y en a qui sont en Irlande, qui sont en Slovénie, qui sont en France, et on va taxer de manière équitable en fonction de ce paramètre-là. Et deuxièmement, il faut aussi mettre de l'énergie politique, parce que c'est une question de justice essentielle. Ces entreprises, aujourd'hui, ne payent pas ou peu d'impôts, alors que ce sont celles qui ont la croissance la plus forte. Je pense d'ailleurs qu'avec tout ce qui se passe, vous savez, les scandales d'évasion fiscale, mais aussi la question des données. Vous voyez ce qui se passe sur Facebook. Ces entreprises doivent comprendre qu'elles ont intérêt elles-mêmes à payer plus d'impôts qu'aujourd'hui. Vous avez signalé ceux qui n'étaient pas d'accord au Conseil. Je les connais. C'est un peu les usual suspects, hein, comme on dit, les habituels clients. Mais moi, je veux mentionner ceux qui sont d'accord, et notamment les 5 grands pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. C'est très important. Il y a une base de soutien, je dirais, probablement d'une vingtaine de pays pour commencer. C'est pas mal. Donc, on va pousser. Et vous pouvez être sûr que, pour ce qui me concerne, je mouillerai la chemise pour qu'on y arrive, parce que je pense que c'est une question essentiel de justice. On s'interroge, vous parliez de...
À l'unanimité quand même. Hein.
Oui, mais vous parliez de l'Europe, des doutes qu'il y a sur l'Europe. Si l'Europe est capable de montrer que sur un sujet comme ça, elle est leader mondiale et qu'elle fait la preuve qu'on peut avoir une percée de justice, ça c'est du plus. Et donc il faut aller dans ce sens-là.
Alors parlons un peu de l'avenir, Pierre Moscovici, pour terminer, de votre avenir. On vous prête beaucoup d'ambition. Dernière en date, vous pourriez prendre la liste du Parti Socialiste Français aux prochaines européennes, un parti qui est aujourd'hui en très mauvaise posture. Vous avez été sollicité, vous êtes prêt à prendre cette tête de liste ?
C'est une expression qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. Je ne me sens pas spécialement riche je ne pense pas aujourd'hui d'abord à l'avenir. Je pense au présent, j'ai encore beaucoup à faire à la Commission. Il faut sortir la Grèce de son programme. Il faut faire aboutir cette taxe. Il faut continuer à piloter la politique économique de façon à ce qu'on soutienne la croissance sans accroître la dette. Et j'ai appris une petite chose dans ma vie politique, qui commence maintenant à être un peu longue, c'est que la meilleure façon d'avoir un avenir, c'est de réussir son présent. Donc je vais me concentrer là-dessus, et puis on verra. Après 5 ans passés à la Commission, 7 ans dans des gouvernements, 6 ans au Parlement européen, je resterai jusqu'au bout de ma vie ce que je suis, c'est-à-dire un homme qui a une expérience, qui peut être utile, j'espère, un Français passionné par son pays, un Européen engagé dans la construction européenne, un homme de gauche aussi. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
Et une dernière question. On vous prête aussi beaucoup de bonheur. On a appris que vous allez être papa. Félicitations.
C'est gentil. Ça je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire qu'on ne prête qu'aux riches et qu'on verra plus tard. On va voir.
Alors, une question quand même. Vous savez, une question qui est célèbre dans la vie politique française. Mais qui va s'occuper de l'enfant ?
Il va falloir le faire à la moderne. Donc, il faut s'en occuper tous les deux. Et je vais... un peu sur le tard, je l'avoue, découvrir pour la première fois ces joies, ça m'émeut énormément. Il arrive aussi que ça m'angoisse, parce que je me demande ce que je vais pouvoir faire de mes 10 doigts, mais on va se donner les moyens de faire ça. Et aujourd'hui, quand on est père, je crois, j'en suis sûr, on peut pas faire ça comme on le faisait au début du siècle dernier. Les hommes doivent prendre toute leur part. Et d'ailleurs, ma femme ne le laisserait pas faire autrement.
Et si besoin, mettre entre parenthèses vos activités politiques ?
Je pense tout à fait qu'on peut être aussi père, travailler de manière active. Il y en a quand même beaucoup qui ont donné des hommes et des femmes.
Tout à fait.
Donc je ne sais pas comment on va faire, mais ça va le faire.
Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Pierre Moscovici.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou bien sur Radio France Internationale.